89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, comme tous les samedis, vu que nous sommes le samedi 4 juin 2005, nous ouvrons avec les magazines suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, puis ensuite au cahier du sport à partir de, enfin on va dire vers 13h, voilà, à peu près, voilà, à 15h, à 17h, excusez-moi, Vide Ordure directement, 18h30, Clark Nova, 20h, la Stéréo Experience, c'est une émission préenregistrée, 21h30, Liquid Squy, c'est l'électro aussi, et 23h, Breakbeat Experience, une grosse soirée de jungle en plus, organisée par Radio FMR, donc ça tombe bien, voilà, bienvenue.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
C'est bien vrai, ça.
Et c'est supplément week-end, donc bonjour Thomas.
Salut Xavier, ça va bien ?
Oui, oui, très bien, penses-tu ? Là, ça commence à se couvrir, on a en plus un événement qui se passe
à la Croix-Falgarde.
Ouais, ouais, on le salue, je suis désolé, j'ai pas pu être la dernière fois, mais bon, cette fois-ci, c'est un spécial Sin City.
Go.
Trash 80 sur le label 8-Bit Peoples, le morceau était sorti en décembre dernier sur le net, on peut le retrouver sur 8bitpeople.com ou trash80.net. Et la chanteuse s'appelle Jem et le site c'est Jem et les hologrammes, c'est une
comme
fanatique.
Comme par hasard.
Comme par hasard, ouais. À ce qui paraît, je l'ai passé.
Oui, il paraît, ouais. Mais je te le retrouverai, je te confirmerai ça la semaine prochaine.
On verra ça, mais je ne suis pas sûr que, franchement, que j'ai
fait l'erreur.
Bah écoute, je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, je vous invite à télécharger l'album sur le net. Allez-y, téléchargez. C'est gratuit, c'est légal, quoi qu'en dise un représentant du ministère de la Culture, puisque la semaine dernière, j'étais absent, puisqu'il y avait le congrès des radios associatives et il y avait, il y avait des réunions techniques, etc. Et il y a eu la représentante de la direction musicale de danse du ministère de la Culture qui me soutenait mordicus que télécharger des morceaux sur le net est strictement illégal. C'est faux. Il y a des labels open source. J'en ai passé un extrait. On va en passer un deuxième en cours d'émission de Comfort Fit, qui lui aussi a mis un album entier qui est sorti il y a 3 semaines sur le net et que Radio Campus d'ailleurs a déjà passé et plein d'autres radios. Donc on va dire merde au major vu comment il se comporte vis-à-vis des consommateurs et maintenant des radios associatives. Ça, j'en parle sur mon blog et vous pouvez y accéder via le site de la radio théoriquement. Et voilà. Il y a 15 jours, on avait un invité donc pour le festival Escale qui est donc co-organisé par l'association Le Chèvrefeuille et par les Illustres Inconnus. Donc on avait les Illustres Inconnus à l'antenne 1h30 avant. J'ai dû me décommander et je le regrette énormément parce que c'est une belle initiative. Donc ça a lieu ce week-end en ce moment à Tournefeuille, à la Halle du Ramier. Et il vaut mieux que ça soit un peu couvert parce que là le temps il est un peu mitigé. J'espère quand même que ça va tenir. Hein.
Oui, en principe il n'y a pas de raison.
Donc,
ouais, ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui jusqu'à demain.
Voilà, donc en journée c'est gratuit, si je me souviens bien, et à partir de 21h, donc c'est des performances payantes, etc. Il y a plein de performances, c'est un collectif artistique en fait qui propose au public de participer en journée, à découvrir avec eux ce qu'est entre guillemets l'art moderne, mais en dehors, hein, je veux dire, du cadre des écoles d'art, etc. Toi, t'as repris en partie mon texte, hein, qui pourtant n'était pas tendre envers une institution dont tu es sorti.
Ben écoute, je l'ai reproduit.
L'enseignement
à ma sauce,
supérieur, quand même, des beaux-arts.
Ouais, toi, t'avais d'autres choses à reprocher aux beaux-arts, mais.
Mais je crois que la tienne était peut-être plus justifiée parce que t'étais dedans.
Oui.
Donc voilà, donc samedi, ben donc aujourd'hui, Isa et Pascal Delay pour.
Ouais,
c'est à partir de 21h, excuse-moi.
Ouais, un beau mariage art plastique et danse théâtre qui vaut le détour.
Voilà.
Et donc ce soir, Minimal Orchestra.
En concert avec un visuel de Le Collage VG. Est-ce qu'ils sont en concert ailleurs en même temps à mon avis, ils vont plutôt privilégier les Illustres Inconnus. Je n'en sais rien. En tout cas, Radio FMR est partenaire. C'est pas un signe forcément de qualité, mais ça vaut le coup. Allez-y. Je crois que c'est 8€ l'entrée. Le lendemain, il y a à partir de 13h un pique-nique open. C'est-à-dire, vous arrivez avec votre pique-nique, etc. On va partager au bord de l'eau avec les artistes de 16h à 18h des ateliers artistiques en entrée libre. Et à partir de 18h, une vente aux enchères avec Zav qui fait du théâtre d'improvisation et du sport. A dit que en fait c'est un gars de FMR,
oui,
j'avais
oui,
pas
oui.
remarqué.
Ouais, apparemment.
Apparemment, voilà. Et pendant tout le week-end, en entrée libre, installation vidéo par un collectif anonyme, une expo photo de Jérémy Villy, une exposition art plastique de Isa, des graphes en direct de Ellie Toulouse N.
C'est que reportage réalisé par Sacosette qui sera diffusé en fin de journée demain.
Voilà, donc qu'en plus je salue.
Voilà, ouais. Salut bien bas.
Bien bas l'artiste. D'autres choses peut-être annoncées de ton côté
dans les news?
Non, attendez, ce soir il y a aussi une soirée, ça c'est beaucoup plus tard, c'est-à-dire quand ce sera terminé justement aux Escales, ça ne sera pas complètement fini, mais là c'est de l'autre côté de la ville puisqu'il s'agit du Weapon Art Remix 2 qui a lieu à la péniche de Toulouse qui est du côté des Sept Deniers dans ce canal parallèle à la Garonne, boulevard de l'Embouchure. C'est à partir de minuit pour démarrer correctement à 1h pour qu'il y ait un peu de monde. C'est une soirée organisée par Megabass, donc je salue bien bas puisqu'il s'agit de Bunny Dread qui va mixer du reggae, pure reggae dancehall, DJ Dreadly Show, c'est du New Breaks, MC Canada qui fera le MC, yes, ça va le faire, DJ Kush de Radio Campus, pour la Jungle, Liquid, Drum and Bass, un live de Push It pour du dub électro, et DJ Floor qui est une petite DJette londonienne qui s'est fait remarquer en 2003 au printemps de Bourges dans la sélection électro et qui s'était fait connaître entre autres pour un bootleg de Mars, le morceau Pop Up the Volume, c'était il y a un an et donc maintenant elle signe sur le label Labrock avec un maxi intitulé Bougie Child et qui est amené à faire une très belle carrière. On aura l'occasion d'en parler dans les émissions musicales de Radio FMR, et moi j'espère, hein. Voilà. excusez-moi. Ouais. Pardon. Oui. Donc là, on me passe une dépêche. Donc je crains qu'il ne faille faire un break musical spécial news. Madame, monsieur, bonjour. L'information principale de cette édition spéciale, c'est la mort de Raymond Moretti. L'artiste nous a quittés à 74 ans. L'Union syndicale des décorateurs de l'ORTF est en deuil. Ce décorateur de FR3 Paris, donc, s'est fait connaître pour, comme étant le soi-disant créateur des galeries. Vous savez, ce concept de toile suspendue au plafond sous les arcades de la place du Capitole, dont l'idée fut complètement pompée avec le nom, s'il vous plaît, à une fête artistique de quartier que la mairie c'était bien tout fait pour essayer de bloquer l'organisation, et ceci c'était 3 années avant l'annonce du concept. Ben voyons, voilà.
C'est date de quand en fait ces trucs au plafond?
Cinq ans. Enfin, personnellement, moi, j'en suis pas absolument fan. Hein, je crois que c'est... non, pardon. À ce qui paraissait, c'est entendu. Thomas, tu as une revue de presse là.
Oui, oui. J'ai une revue de presse pour passer à autre chose là. Avec.
Je tiens pas à me fâcher avec Dominique Baudis.
Hein, ouais, t'as raison.
Donc là, Dominique Baudis, qui était le présentateur à l'époque, le speaker de FR3 Paris au moment où Raymond Moretti était le décorateur de plateau. Voilà. Il savait tout.
Donc ma revue de presse, quand même. Hein. Bon, j'ai la revue de presse cinéma première, le numéro de juin, le prix toujours de 2 €, la nouvelle formule, donc c'est le numéro 340, avec en couverture ce surhomme est dangereux, histoire d'un mythe, Batman. Donc ils ont appelé Batman, un gros dossier consacré à l'homme chauve-souris.
Laisse-moi deviner, l'homme chauve-souris, il est devenu méchant que grâce à un auteur de BD.
Et si ça se trouve, c'est vrai?
Eh oui, mais on va en parler tout à l'heure.
Voilà. Donc en attendant, c'est un numéro qui est dans un gros dossier est consacré à la sortie du 5e Batman, Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle titre. Avec un casting assez de choix, hein. J'ai vu qu'il y avait Liam Neeson, Katie Holmes, etc. Et donc il y a un long article sur le mythe Batman, les bandes dessinées, la série, les films, etc. Bon, c'est pour ceux qui connaissent pas, Bob Kane, Frank Miller, etc. Ainsi qu'une interview de Christian Bale, l'acteur. Ensuite, il y a pas que ça dans le numéro de première. Il y a aussi John Waters qui prend la parole avec mes scènes de sexe préférées. Ça vaut le détour, hein. Il dit que justement il a vachement apprécié la scène de viol de Monica Bellucci dans Irréversible, et il peut pas s'empêcher de passer la musique de Thomas Bangalter quand il reçoit des invités chez lui, c'est assez drôle.
Thomas Bangalter, faut savoir que c'est l'un des deux de Daft Punk, et là il a fait un truc complètement trippant et angoissant.
Ah ouais.
Et c'est étonnant d'ailleurs que les Américains connaissent ça, parce que je crois pas qu'il était sorti en salle tellement qu'il était brutal.
C'est surtout John Waters, il a dit qu'il était absolument éberlué de savoir qu'il y a une BO qui était commercialisée en France d'ailleurs. Ensuite,
non, au contraire, hein, même elle est passée en club d'ailleurs.
Ouais. Ensuite, il y a un face à face de deux tournages qui vont se révéler assez gros, hein, le tournage de Marie-Antoinette de Sofia Coppola versus Da Vinci Code de Ron Howard. Donc, qui compare les deux films sur le plan du casting, des réalisateurs, les décors, le budget, etc., les bruits de plateau, etc. Ensuite, on a un dossier qui s'appelle Chinawood, à l'occasion de la sortie de Crazy Kung Fu de Stephen Chow, qui sort, je crois qu'il est sorti mercredi dernier d'ailleurs, ou la semaine prochaine.
Non, il sort la semaine prochaine.
La semaine prochaine, ok. Ouais. Donc, c'est l'occasion de parler du partenariat qui va lier pendant quelques années le cinéma hongkongais et le cinéma de la Chine continentale. Parce qu'il faut savoir que le premier, le cinéma de Hong Kong est obligé de trouver des nouveaux marchés pour continuer à survivre, puisque le cinéma américain a ingurgité tout ce qui faisait le succès du cinéma hongkongais, les cadres, etc.
Bah oui, tous les cadres qui sont partis suite à la réunification avec l'empire communiste du milieu, la menace jaune, vous savez. Ils sont tous barrés parce qu'ils se sont dit oula, ils en ont à dire contre les capitalistes, et en fait pas du tout. Enfin, c'était plus une crainte vis-à-vis d'ailleurs de la liberté d'expression.
Hein. Oui, parce que tout l'aspect politique des films,
faut savoir qu'à Hong Kong, il y a une sérieuse, il y a eu depuis 5-6 ans quand même une sérieuse, un sérieux coup de vis qui a été donné par le pouvoir politique de Pékin, qui à la fois sur les politiques eux-mêmes et sur les médias, mais sur les médias ils y sont moins bien arrivés quand même, mine de rien. Ça, on en a parlé d'ailleurs dans, oui, oui, dans Breaking News.
Et donc voilà, on a une volonté du cinéma d'Hong Kong de trouver un nouveau marché et de revenir vers un cinéma un peu plus réel, ce que fait d'ailleurs Soyark avec Seven Sword qui sortira prochainement, puisqu'il a abandonné toute sa veine numérique, et alors que le cinéma de la Chine continentale est en train d'importer beaucoup de savoir-faire et de stars, parce qu'ils en ont effectivement besoin, en proposant des décors grandeur nature, etc. Décors qui n'ont pas eu l'habitude d'être filmé. Ainsi, alors je vais terminer le numéro de première avec en signalant des photos de Cannes donc réalisées par David Cronenberg lui-même, qui a pris l'appareil photo pour première et qui a photographié un peu ce qui se passait autour de lui. Donc on a des beaux portraits de Viggo Mortensen en train de faire le con, etc. Et ainsi qu'un reportage photo également de Dunja Kusturica, la fille de son papa.
Délire.
Ouais, et qu'il a photographié à la préparation des concerts du No Smoking Orchestra.
C'était juste avant Cannes. Au festival des vieilles, non pas des vieilles charrues, je dis une bêtise.
Bourges, pas tant de Bourges.
Oui, voilà. Pardon, ouais.
Et donc on va terminer par les premières images du guide du voyageur galactique, qui était peut-être un peu cher, Xavier.
Voilà, on a ne paniquez pas, surtout ne paniquez pas. Et le routard galactique, pour moi, voilà, c'est le guide du routard galactique, qui était le titre original et que Hachette a fait changer le nom après un coûteux procès. Ce qui est bien dommage finalement, parce que, enfin, on en reparlera du film.
Oui. Voilà, donc ouais, ça, c'était le numéro première du mois de juin, 2 €, consacré à Batman.
Vous écoutez Radio FMR, il est midi et 16 minutes, et c'est supplément week-end, et on va entamer la bande dessinée. Oui, non, mais là, on y va un peu.
Tranquille.
Arrête de foutre ma gueule, chaque fois je perds mon planning musical quand il le faut pas, c'est pas drôle, voilà, bon, ça arrive. Enfin, donc on va vous parler donc tout à l'heure de Frank Miller pour l'adaptation qui est faite par Roberto Rodriguez de Sin City, qui est quand même une œuvre majeure et qui était très 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 attendue. Mais en attendant, on va commencer avec quelque chose qui est un peu dans le style de Sin City. J'ai fait une sélection de 4 BD qui était prévu de chronique il y a 2 semaines. La première n'est pas exactement dans le style justement de Frank Miller, puisque c'est de Frank Miller en général dont je vais parler. Mais là, on va commencer par de la bande dessinée européenne. Et puis voilà. On va commencer avec une adaptation culottée, un truc improbable. Quelque chose, vous allez me dire, mais il y en a, je sais pas, ils auraient dû arrêter. Puisque Pecco est parti en tête de faire une adaptation, tiens, je te le file, du roman de Herman Melville, à savoir Moby Dick, s'il vous plaît, avec un dessinateur d'Europe de l'Est qui s'appelle Zeliko Paek, qui, ma foi, est plutôt talentueux. Moby Dick, donc, le premier tome s'appelle New Bedford. Ça signe les 10 ans de la collection Neopolis chez Delcourt, une collection orientée SF. Puisqu'il s'agit d'une adaptation SF un peu dans le trip, je vais dire, épique, un peu à la casse des métabarons, de Moby Dick. Faut oser. Donc, je vais faire le résumé du bouquin. Mais je veux dire de la bande dessinée, pas du roman originel. Ismaël fait comme tous les jeunes de son âge, il fuit une planète Terre complètement épuisée et sans avenir pour les hommes, et son premier grand départ, il le trouvera sûrement dans le spatioport de New Bedford, où les vaisseaux miniers partent à la conquête de la ceinture d'astéroïdes pour récupérer des métalloïdes, matière première indispensable pour l'industrie de ce qui reste de la Terre. Une chasse extrêmement lucrative, mais très dangereuse et plutôt longue, puisque les campagnes se comptent en plusieurs années. Parti pour l'aventure et sans un sou en poche, le premier obstacle est de se faire embaucher, surtout quand on n'est pas accrédité par les syndicats dockers. Mais grâce à une rencontre fortuite, qui Kiikeg. Il pourra se faire embaucher à bord du PECO, un des vaisseaux miniers en question. Mais très vite, il en ressort que le capitaine ne compte pas vraiment rapporter les astéroïdes, mais fait la chasse à la comète, une mythique comète meurtrière dont le nom est Moby Dick, une comète blanche qui détruit les vaisseaux miniers. C'est une adaptation surprenante, mais après tout, eh ben, elle est tout à fait valable. Je vais dire que le détachement de la SF permet de retrouver justement le souffle épique du roman de Herman Melville, c'est-à-dire cette lutte d'un vieil homme contre une baleine blanche au milieu de l'océan, perdu au milieu de nulle part. Maintenant, on a un peu du mal à se dire l'océan et tout, il y a le GPS, et puis c'est parfaitement connu. Oui, mais revenez quand même à l'époque où a été écrit le roman, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. C'est quelque chose dont il est à peu près aussi difficile à dompter que l'espace après tout dans un siècle. Je veux dire, Peko, qui est le scénariste de Nash, de Arkane, scénariste plutôt dans l'action, l'inquiétant ou le cyberpunk. Là, il a fait une reconversion justement sur le roman de Harponner, sur une adaptation qui est quand même assez couillue, hein, faut oser, qui est plutôt réussie. Quant à Paek, eh ben, on dirait le Juan Jiménez de ses débuts, vous savez, le dessinateur de la case Emeta Baron, mais aussi, j'en ai parlé du quatrième pouvoir, il est encore brouillon, mais il sera très probablement brillant. En tout cas, la suite et la fin de cette histoire en deux tomes sortira en août 2005. Ce ne sera à ne pas manquer à mon avis. Moby Dick, donc le premier tome, s'appelle Bedford, collection Neopolis chez Delcourt, de Peko, d'après le roman de d'Herman Melville, et dessin de Zeliko Paek. Thomas.
En tout cas, le graphisme, il tue. Hein. Franchement, je vais te taxer ce bouquin là parce que le mec, il a pas peur de laisser les traces du crayon, les petites ratures, les petites hésitations. Le graphisme, vraiment, ça pète. Hein.
C'est impressionnant parce qu'on a vraiment une impression de gigantisme des vaisseaux spatiaux. C'est très fort. C'est impressionnant. C'est après, il y a le dessin, justement, les personnages, ça ressemble pas mal d'ailleurs à ce que je disais, à Juan Jiménez, ouais. Ainsi que le traitement des couleurs qui est assez spécial, mais des fois on se dit le dessin est inachevé, il est allé un peu
vite. Justement, mais c'est ça qui fait la force du trait en fait, hein.
Et en fait, c'est à découvrir. Donc voilà, premier bouquin, hop, vendu.
Allez hop, taxé.
On va parler maintenant d'une série de SF qui parle d'États-Unis complètement déglingués, démontés, ce que tu veux. Tiens, je te le passe. Il s'agit de Sébastien X. On va en parler tout à l'heure. Frank Miller aime bien démonter les États-Unis. Il l'a fait en scénarisant deux Robocop et avec le personnage de Martha Washington. Là, ça en est pas loin. Il s'agit sur un scénario de Michelangelo Lanève et d'un dessin de Stuart Immonen. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le pilote, mais bon, ça restera à voir. Hein. Oups, excusez-moi, ça s'appelle une fausse manip. En tout cas, il a fait une histoire assez allumée. Sa vision des États-Unis est plutôt, on va dire, quelque chose d'assez gothique. Sébastien X, ce premier tome s'appelle La mort à deux visages, c'est chez Humanoïdes Associés qui là se montre en pleine forme avec un bouquin qui est vraiment surprenant et assez inédit. Ça se passe en 2097, l'église catholique a trouvé la cure, un véritable don de Dieu, s'il vous plaît. Grâce au monopole sur ce médicament universel qui guérit du sida, qui guérit des cancers, de la plupart des maladies, et qui permet d'allonger effectivement le temps de vie, hein, on s'en cache pas. Le révérend Godstar, la star de Dieu, fait fortune dans les supermarchés, les chaînes de télévision, les marques de vêtements. Imaginez que chaque achat vous rapporte des points, et en accumulant ces points, vous pouvez avoir accès à la cure. C'est un système commercial absolument bien rodé et qui est pas mal utilisé d'ailleurs, bah justement aux États-Unis, qu'on connaît relativement peu en France, mais un système qui permet de s'assurer, grâce au monopole vis-à-vis de ce médicament universel, une toute puissance économique, mais aussi politique, puisque l'Église catholique règne sans partage sur l'Europe. Et surtout les États-Unis ont donc viré catho, mais sont restés intégristes. fait un peu mal, vous allez me dire. Eh ben, effectivement, il y en a qui ne me supportent absolument pas. Ce sont les guérilleros du mouvement laïque clandestin, qui sont emmenés par Sébastien X, un surfeur rebelle qui, cheveux au vent et aux spectaculaires actions qui alimentent le réseau vidéo clandestin, mène des combats pour libérer la nature et combattre justement cette toute-puissance industrielle et politique d'une église qu'il combat. Mais alors qu'il chevauche la mer pour empêcher la chasse des baleines, il se fait tuer. C'est une véritable catastrophe. Non pas pour le mouvement laïque clandestin, mais pour l'église catholique de Gold Star. Ben oui, parce que de rebelle, Sébastien X va passer au statut de martyr. Martyr de classe Che Guevara. Vous voyez, une icône. Ah bah merde, alors on en a fait un saint. Ah, chier, flûte. Heureusement, il reste le pilote de l'hélico qui l'a tué et qui est complètement assommé. Le pilote de l'hélico, on va le faire passer pour mort grâce à un très talentueux gestionnaire d'image qui fait partie d'une secte autorisée qui est fan de du look esthétique et je vais dire de la propagande du fascisme et du nazi, puisque ce sont des nazis convaincus qui vont orchestrer cette opération là. Donc ils vont faire passer ce pilote de l'hélico pour Sébastien X, ce qui leur permettra à la fois de démanteler le mouvement laïque clandestin, mais aussi de salir l'image de Sébastien X comme étant un immonde traître et ainsi démoraliser les fidèles. C'est plutôt osé. Fallait faire un truc comme ça, c'est quand même pas évident, mais en plus, ils y sont parfaitement arrivés, et c'est plutôt trippant. Bref, c'est quelque chose d'absolument inquiétant, et c'est plutôt bien réussi, il n'y a pas d'autre terme. Moi, je trouve que c'est une très 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 bonne BD. Déjà, il fallait oser, quoi. Mélanger action politique et vidéo de surf. Au départ, on se dit, bon, ok, mais ça fait une BD exclusivement action. Ben non, pas du tout. Puisque vous allez le découvrir par vous-même en le lisant, que c'est beaucoup plus verbeux que ce que cela devrait être. Et justement, il y a un très bon polar, c'est très amené. Il y a cette idée d'infiltration qui est bien foutue dedans. Bref, vraiment, là, on s'éclate. C'est quand même très, 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 très bien foutu. Non.
Ben, moi, je vais pas te la taxer, celle-là. Je vais rester sur l'autre et...
D'accord, donc je l'ai mal vendu, ok. À propos de vendre, là il est 12h27 sur la poubelle des radios et je suis désolé, mais la régie me fait signe que c'est l'heure de passer la pub.
Il n'y aura point de pardon, les âmes perdues seront perdues à jamais. Mais il faut dire que le rock'n'roll était trop bon. Paradise Lost, métal angoissé et théâtral. Mais qu'est-ce que le Paradise Lost? Le Paradise Lost, c'est Eve qui a la migraine quand Adam vient au lit après le match sur TF1. Le Paradise Lost, c'est quand t'es bourré au volant de ta caisse les quatre vitres ouvertes et que t'aperçois le panneau Halte Gendarmerie. Le Paradise Lost, c'est quand t'ouvres l'emballage et qu'à l'intérieur il y a un chewing-gum. Le Paradise Lost, c'est tout ça, mais c'est aussi le lundi 6 juin au Havana Café.
On s'envoie très rarement des fleurs, mais là je dois avouer que la Rascal il a fait très fort et je le félicite quand même, très très bonne pub.
J-471. C'est clair, il fallait fêter ça.
Ouais, de son cercle.
Il y a des dates comme ça, on peut pas passer à côté.
Vous tirez l'oreille, vous mettre au pas.
Donc, 471 jours plus tard, soit 11 304 heures plus tard, soit 678 240 minutes plus tard, soit 40 694 400 secondes plus tard, le bikini sort de terre. La métamorphose se produit en une nuit, comme un champignon. Tous les amateurs seront là avec leur caméscope pour ne rien rater de la scène. En attendant, les 7 et 8 juin, les amis du bikini organisent une petite sauterie. À la SDF de Ramonville, il y aura donc Hyper Clean, Magie de Cherfi et les Fabulous le 7 juin, Gomme, Manimal et Film le 8 juin.
Je foutrai en l'air tout beau, nickel.
j'en ai rien à foutre d'avoir laissé mon micro ouvert. La réouverture du bikini, c'est trop énorme du sport. C'est... Je crois que tu le sais aussi bien que moi. Bon, d'accord. Radio FMR, c'est Supplément Week-end. Il est 12h30. Au top.
Top.
Et on continue dans les sorties bande dessinée avec, ma foi, Philippe Thom et Marc Hardy qui ont sorti un album qui s'appelle Feu. Enfin, c'est une série qui s'appelle Feu et le premier tome s'appelle Fille des Reptiles. C'est chez Dargo. Hop, je te le...
Merci.
Et tout ça pour dire Philippe Thom nous avait habitué à largement mieux. Philippe Thom, c'est le scénariste qui avait repris le Spirou dans les années 80, qui avait créé le petit Spirou, qui avait aussi fait le personnage de Soda, vous savez, ce flic qui se fait passer pour un prêtre à New York, qui avait fait Berceuse Assassine, trois histoires de meurtre en trois albums qui étaient absolument géniaux. Mais là, on se demande ce qu'il a voulu faire. Il a voulu reprendre un concept à la Sillage ou à Aqua Blue ou encore Torgal, mais avec une erreur étonnante dans le pitch. Le pitch, je vous le fais. Tombée bébé d'une capsule cosmique sur une planète inconnue, une jeune fille est la seule représentante humaine au milieu de dinosaures intelligents. Non, même pas. Or, il y a une chose que l'on a appris avec la Japanimation, c'est que les extraterrestres doivent avoir une forme humanoïde. D'après toi, pourquoi les extraterrestres ont une forme humanoïde dans la Japanimation?
Pour voir leur nibar.
Bien! Pour le sexe, comment voulez-vous imaginer une belle fille sculpturale, mignonne, bien fichue et dans une tenue qui en fera un téléfilm interdit au moins de 16 ans, quand même, pour nos amis le sages, ce qui serait amplement mérité, au milieu de dinosaures. On ne peut rien imaginer, ça n'est absolument pas vendeur. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris dans le jeu de rôle, dans une extension au jeu de rôle Cyberpunk, qui était édité par Talsorian Games, qui s'appelait Mecton Zeta, sur la simulation de robots géants de dessin animé. Ils en parlent un chapitre entier. Donc, quand on met des extraterrestres dans une série, on va pas choisir des insectes, on va pas choisir des lézards, ou alors avec une belle forme humanoïde, et parfaitement membré, si vous voyez ce que je veux dire. Le sujet est parfaitement maîtrisé par les spécialistes qui en ont fait plusieurs analyses, en licence et en maîtrise, voire même un doctorat. Or, les dinosaures dessinés dans un style réaliste ne sont pas spécialement humanoïdes, mais plutôt de monstrueux lézards à sang-froid. Vous voyez, dans le genre Jurassic Park, ils sont bien, hein, anatomiquement, ils sont corrects, il n'y a rien à redire. Mais c'est absolument rien de bandant, quoi. Ou alors, vous avez de bien curieuses perversions. Un scénario maigre, une originalité malingre, un dessinateur très mal exploité, puisque Marc Hardy, c'est le dessinateur de Pierre Tombal et de Lolo et Sucette. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire quelque chose d'assez bien fait. En général, ça n'a absolument rien à voir par un scénariste. Philippe Thom, qui est en manque d'inspiration. C'est peut-être aussi parce qu'il est en ce moment au sud de l'Australie et qu'il a dû abandonner Spirou. Enfin, bon. En tout cas, c'est bien dommage. Sur le papier, le casting avait de quoi assurer. Il manquait peu pour que l'idée passe d'incongruité à génial. Une série au concept original, peut-être. Mais... pas vraiment intéressante, et ça c'est vraiment malheureux.
Là tu l'as mal vendu, le bouquin là, donc je vais pas te le taxer non plus.
Je te l'ai cassé. Comme la constitution, je te l'ai cassé. Oh, du sport, t'arrives. Non, parce qu'il est là et puis il est remonté, alors je sais pas pourquoi, je crois qu'il manquait un câble.
Il a oublié la moitié de ses affaires dans sa bagnole.
Ah, d'accord, ok.
Je vais revenir, t'inquiète pas. T'avais pas une dernière BD à chroniquer, toi?
Bah ouais, mais justement, ça...
Ah oui, d'accord.
Bon, bah tant pis, voilà, allez, hop, ça sera sans lui, c'est bien fait pour toi. Edus, vite. Il s'agit d'une BD scénarisée par Warren Ellis et dessinée par Chris Weston, ministère de l'espace. Attends, je la refais. On met une belle musique, voilà. Donc, Warren Ellis, c'est le scénariste dont je disais là qui faisait plutôt des trucs plutôt sanglants, plutôt rentre-dedans, des fois complètement gore. Moi, personnellement, c'est un scénariste anglais, attention, qui est arrivé justement via 2000 AD et qui a littéralement boursouflé, explosé, massacré. Il a fait partie justement de ces scénaristes anglais qui ont renouvelé complètement le comics aux États-Unis. Et là, eh ben, il a pris un dessinateur, Chris Weston, qui anatomiquement n'est pas toujours correct. Hein, voilà, ouais, c'est ouais. Un peu dommage. Mais en tout cas, Ministère de l'Espace chez Semic Books, c'est un bouquin absolument énorme. 1945, les savants allemands qui ont conçu les V2 sont récupérés, non pas par les Américains, non pas par les Soviétiques, mais par les Anglais. Ah, bon, ok. L'occasion pour John Dashwood, un ancien de la bataille d'Angleterre, qui est général d'armée, un général de brigade à 24 ans, s'il vous plaît, ben oui, il y a eu très peu de vétérans de la bataille d'Angleterre. Du ministère de l'air de proposer à Churchill de fonder une industrie spatiale qui permettrait de relancer un empire britannique exsangue à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et oui. Donc résultat des courses, eh ben il se dit écoute, on a les savants, on a le savoir-faire, on a l'exclusivité, on conquiert l'espace, mon vieux Churchill, et tu vas voir, avec ça, on va relancer l'Angleterre. Oui, mais il va le faire par des moyens un peu avouables. La première des choses, c'est qu'il va le faire à marche forcée, malgré des risques incroyables. Des lancements d'avions, une lune artificielle, une station orbitale permanente, et la conquête de la Lune au nom de sa royale majesté Elisabeth II, ceci en moins de 20 ans. Oui, une uchronie absolument hallucinante qui rend hommage aux bandes dessinées anglaises des années 50, éditées par Eagle Comics. C'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas en France, mais qui en Angleterre a eu un succès énorme. C'est le personnage de Dan Dare. Là-dessus, je te passe le catalogue de l'exposition qui a eu lieu à Londres en 2000. C'est extrêmement connu donc en Angleterre, puisque c'était de la littérature qui était publiée d'ailleurs par un groupe chrétien, bien pensant, etc. Mais qui a énormément influencé la création anglaise, notamment à la télévision avec les Thunderbirds, vous savez, les marionnettes qui se battent en avion avec des fils, etc. Ou encore Doctor Who, justement, les Daleks et tout, ça vient en partie justement de Dan Dare. Tout ça, donc avec des dessins, des véhicules aériens boulonnés, rivetés comme dans Wallace et Gromit, avec un look en fer blanc incroyable, tout ça, ça vient de Dunder. Le ministère de l'espace de Warren Ellis et Chris Weston y rend incroyablement hommage. C'est très très bien foutu. Par contre, c'est glauque, c'est-à-dire que ça y va du... Il y a le dessin qui est très positif, très beau, absolument superbe, mais Warren Ellis va y mettre un degré de subversion qui est plus que violent. Je tiens à remercier Paul Gravitt, qui était le curator, c'est-à-dire le commissaire d'exposition de cette exposition qui a eu lieu au centre de la bande dessinée de Londres, donc pendant l'été 2000, si je me souviens bien, et qui d'ailleurs est un ami, pour son magnifique travail et pour m'avoir fait découvrir justement Dan Dare, et aussi ainsi que François Penaud, qui est le spécialiste comics de Actua BD, qui peut-être nous écoute puisqu'il est à Toulouse, donc je le salue parce que lui, il m'a confirmé, j'avais envoyé un mail, j'ai dit, c'est marrant, ça me fait penser à ça, il m'a dit, ouais, justement, lis mon article, c'est la même chose, hein, on sera d'accord. Sauf que lui, il a rapproché vis-à-vis de la télévision anglaise. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que Gartenis parle d'utiliser l'industrie spatiale pour sortir l'Angleterre du marasme économique post-Seconde Guerre mondiale, puisque l'industrie était complètement détruite, les villes ravagées, etc., l'économie complètement massacrée. Sauf que ce qui s'est passé en vrai, ça va peut-être vous surprendre. Mais en fait, en Angleterre, ils en sont sortis d'une manière différente, par la télévision. Ils voulaient faire une unité, la BBC avait expérimenté pendant une dizaine d'années la télévision avant la guerre, ils ont arrêté, ils ont repris en 46, ils ont repris à marche forcée. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, on va construire le matériel et on va construire les programmes pour les États-Unis. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Je mettrai les liens en question sur le site justement, ou alors si j'oublie, Thomas t'oubliera pas de me le rappeler dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Je vais passer un des net albums. Donc j'avais dit que j'allais passer plus en plus. Ouais. Il s'agit de Comfort Fit. Son premier album Museum était sorti sur Megahertz Records en 2001 Et il avait fait des singles et des morceaux. Il les avait sortis via Tokyo Dawn Records, qui est un label européen de publication sur le net, ainsi que des remixes pour Universal Jazz, etc. Et lui, il a décidé de publier principalement sa production gratuitement sur le net. Et là, ben, malgré le fait qu'il commence à être connu, puisqu'il a fait de la musique pour la campagne internationale pour une célèbre marque d'automobile allemande, il avait ainsi que des ainsi que une industrie high tech, mais je vais pas dire qui c'est. Sa spécialité c'est le turnabilisme et le rap, et ainsi que les shows sur MTV et sur Trace TV. Et ben comme Fanfit revient donc avec son nouvel album qui s'appelle Forget and Remember Something to Do, vous pouvez le télécharger sur Tokyo Dawn Records, Tokyo Dawn DAWN .net. Allez-y, choupez-le, l'album est en entier, c'est gratuit, c'est libre et c'est sans danger puisque vous avez le droit. Alors allez-y, on vous le fait découvrir. Radio Campus l'a déjà fait depuis 2 semaines, et oui, je voulais le passer au moment du passage donc de nos
tu
amis.
Tu t'es fait griller.
Non, c'est pas que je me suis fait griller, c'est que j'ai pas pu, voilà. Tokyo Dawn, yo, yo, it's going down. This is Eddie P, you know what I'm saying? We gon' rock it like this. It's like, I wish I had a key to the moves. Slave for tools, a village of fools. Nothing to lose, more power than a plug or fuse. Motherfuckers can't do what I do. Send it back to a cable or zoo. Know what I mean when I'm looking at you? Got problems when I'm dealing with you. I need a parlay boost, some weight that's gonna change real soon when I'm fucking with you. This guy, nothing but blue, don't know why. I'm not nothing but boots, I guess everything is there about my crew. Honey, see, honey, something to do. 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 I never seen a honey who walk like true. I mean, talk right too. Keep it tight, not loose. Honey walls, everything that hang from a tree. Honey got wants and I got needs. Honey, see, honey, something to do. 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 Take it all the way back, check Timbuktu. Your whole world looks blacker than blue. Know what I mean when I'm rapping that crew. Street corner, like the stand with the new. Front page, I'm the man with the tune. All day, many beats in the room. Hear the drums, tit-tit-tit-boom. Honey, see, honey, something to do. All I see is comatose when I'm looking at you. Straight game with the park with a sweetening view. Competition, never know what I knew. Take shit underground and I throw it at you. Honey, see, honey, something to do. Honey, see, honey, something to do. C'était donc je vais y arriver. Comfort Fit et Blacktronic, Something to Do sur l'album Forget and Remember. Vous pouvez choper gratos sur le net, on mettra les références. Et vous écoutez Supplément Week-end sur Radio FMR 89.1 MHz. On va entamer la partie cinéma. Du sport est arrivé juste à temps. Du sport a manqué la chronique de Ministère de l'Espace. Je te le passe avec le texte de la chronique et le bouquin sur Dan Dare. Tu comprendras
sport,
pourquoi
c'est
après.
C'est pour toi.
Du sport. Du sport, voilà.
Ça va,
il était bien le Batman anthologie là Oui, il n'ose pas parler là. Il est en plein déroche. Bon, tant pis. On va entamer le cinéma.
Ouais. Avec Sin City, le film qui est sorti il y a 3 jours, hein, mercredi dernier, adapté du comic book de Frank Miller, co-réalisé par Frank Miller et Robert Rodriguez, avec la participation exceptionnelle de Quentin Tarantino, qui était réalisateur invité. Mais avant de parler du casting, de la genèse, du pitch, etc., peut-être qu'on va profiter de l'occasion pour revenir sur les carrières respectives des deux co-réalisateurs, peut-être, Xavier.
Roberto Rodriguez, je ne suis pas assez spécialiste pour le sujet. Par contre, Frank Miller, je peux vous dire que c'est un auteur qui est né en 1897 et qui a disparu en 1960. Je me suis trompé de page dans le dictionnaire de la BD, excusez-moi. Parce qu'il y a deux Frank Miller, oui, effectivement. Frank Miller, eh ben, c'est l'auteur qui a fait passer le statut de comics, de lecture pour adolescents préboutonneux et éructants à drame shakespearien. J'exagère un peu. Hein. Ouais, bon, presque. Né en 1957, dans ses influences, on compte la manga. Ainsi, il a illustré toutes les couvertures américaines de Lone Wolf and Cub, qu'on connaît plus sous le nom des films Baby Cart. Ouais. Mais aussi les BD européennes, comme celles publiées dans un magazine qui s'appelle Heavy Metal. Il s'agit ni plus ni moins que la traduction américaine du Metal Hurlant français avec Moebius, Casa, Druyer. On peut dire que là-dessus, la filiation, elle est directe quand on lit les bouquins. En 1979, il se fait remarquer des autres dessinateurs avec la série d'Art de Ville dont il reprend le dessin. Puis arrive, fait rarissime, dès l'année suivante, à proposer ses propres scénarios à Marvel, principalement noir et très violent. Bref, il va passer la maison des idées, il va transformer un super-héros en un détective de polar et il va en faire quelque chose d'absolument énorme. Sa première mini-série date de 1983, Ronin, chez DC Comics. C'est l'histoire d'un apprenti samouraï dans le Japon médiéval, etc., dont le maître est assassiné, qui va se retrouver, après moult péripéties, en plein New York du 21e siècle, un New York post-apocalyptique, surinformatisé à mort, où justement sont les ordinateurs qui dirigent les grandes corporations, puisque les humains n'ont réussi qu'à détruire leur planète. En 1986, il passe chez DC, il arrive à convaincre DC Comics de reprendre l'un de leurs personnages phares, à savoir Batman, et d'en faire son propre scénario. Il s'agit de Dark Knight Return. Un truc absolument, un choc, absolument, un machin, enfin voilà. Batman est vieux, fatigué, s'est fâché avec Robin. Avec Robin, oui, excusez-moi, oui, c'est ouvert. Hein.
C'est le Darkman Return avec Alan Moore. C'est cela.
Dark Knight Return, oui, exact. Oui. Et donc, si tu me laisses continuer, donc des bandes de sauvageons très énervés font la loi dans la rue. Le Joker est élu maire de Gotham City et Bruce Wayne semble tomber dans la pire des névroses. Un Batman extrêmement violent qui cherche à justifier sa violence devant une gamine qui rêve d'être son sidekick, c'est-à-dire son partenaire. Donc, de reprendre le rôle de Robin, c'est assez incroyable. Ce comics a complètement redéfini la position de justicier. Et ça a été le choc énorme des années 80 à un point impensable, c'est-à-dire, mince, il a revisité un mythe et il en a fait quelque chose de justement plus aussi propre qu'avant. C'est-à-dire, c'est vraiment face à des gamins qui se prennent tous pour Adolf Hitler, etc., et ben, il va les massacrer, c'est-à-dire, il ne prend position ni pour Batman, ni pour les délinquants, mais il se met en spectateur incroyable d'une boucherie effrénée. C'est absolument hallucinant. À tel point que Clint Eastwood récemment a voulu l'adapter au cinéma.
Ouais, réalisé par Darren Aronofsky, le réalisateur de Pi et de Requiem for a Dream, ça aurait tué sa mère quand même.
Oui, là c'est clair. La même année, il scénarise pour Brian Sienkiewicz Batman, Love and War, puis s'attaque à l'un des personnages secondaires, Elektra Assassin, dont il en fera une Amazon qui fera bien des rêves humides chez les jeunes adolescents et qui permettra que l'héroïne de Alias en fasse une adaptation quand même qui soit intéressante. Enfin bon, 1987 sur la lignée de Dark Knight Return, il réalise pour David Mazzucchelli Year One, ou comment le jeune Bruce Wayne revient à Gotham des années après l'assassinat de ses parents. C'est la jeunesse de Batman, c'est-à-dire la jeunesse du policier Gordon qui arrive dans cette ville en tant qu'inspecteur et à peine sorti, d'une école de police. Enfin bon. Le pauvre, il va se faire massacrer. Enfin raconté depuis 35 ans, justement, les vraies origines de Batman. C'est quand même énorme. En 90, son Give Me Liberty fait entrer l'un de ses personnages les moins connus, et pourtant les plus impressionnants par tout l'univers qu'il apporte. Il s'agit donc de Martha Washington. C'est dessiné dans un style très pulp, très années 50, très clean. Il s'agit de l'histoire d'une super soldat... Black, qui tente de sauver ce qu'elle peut d'une Amérique post-apocalyptique en train de se morceler en de multiples états autoritaires. Sa vision très noire des États-Unis et complètement désespérée fera qu'il sera choisi pour les scénarii de Robocop 2 et Robocop 3, dont justement sa vision a été concrétisée en bande dessinée. On en a parlé il y a moins de deux
Delta
mois.
Delta City, ouais.
Voilà. Il rencontre un dessinateur acharné du petit détail qui tue, Geoff Darrow, avec qui il fera Hardboiled, un cyberpunk au look 50s où la moindre explosion de pare-brise fait que Geoff Darrow, c'est un malade complet. Il va dessiner le moindre petit éclat de pare-brise, la moindre petite explosion, moindre chose. Geoff Darrow, d'ailleurs, à cause de sa précision graphique, sera le storyboarder des trois Matrix, s'il vous plaît. 1991, premier tome de Sin City, un noir et blanc troublant des technicités, mais où tous les personnages sont noirs. Les bas-fonds de la ville de Bassin sont une sorte de cité autonome où les putes font leur loi. Le choc graphique fait qu'il sera lu que de ses fans, mais le scénario importe autant que le design poussé de ses planches. Et à partir de là, il enchaîne les histoires complètes comme Daredevil, The Man Without Fur, Martha Washington Goes to War, ça y est, les États-Unis ont éclaté, et l'improbable The Big Guy and Rusty, un hommage à Astro le petit robot. Oui oui, le personnage qui a été créé
par Tezuka,
il en fait quelque chose d'absolument incroyable, naïf, mignon, dans un look rétro-futurisme étonnant, et justement là où on ne l'attend pas. Il abandonne le noir et blanc avec 300. 300, c'est une série qui est colorisée par sa femme. L'histoire des 300 Spartiates dans le Péloponnèse qui se sont perdus et qui ont commencé à mener une vie de destruction à travers justement toute la Grèce. Je crois que c'est au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. Un drame historique sur cette cité grecque où les citoyens ne vivaient que par la guerre et ne pouvaient vivre que grâce à la guerre. Par sa violence esthétisée, il reste un auteur très controversé. Certains le disent fanatique fasciste, d'autres anarchiste rebelle contre l'autorité. En tout cas, il a su faire rentrer à la fois les débats politiques dans le comics, mais aussi amener à la maturité une production mainstream qui se complaît toujours d'ailleurs actuellement, autant à montrer des bimbos en maillot collant plutôt qu'un cerveau qui réfléchit ou les dégâts d'un coup de poing.
Oui, oui, ou autre, hein.
Ou autre, ouais,
avec des autres membres.
Enfin bref, Frank Miller, c'est l'un des scénaristes vraiment qui a complètement refait le comics américain dans les années 80. J'ai été peut-être un peu long, non,
je pense que ça a valu le coup quand même. Hein.
Du sport, peut-être quelque chose à rajouter ou...
Non, ça ira.
T'écoutais pas, d'accord.
Bon, moi je te rassure, je vais être beaucoup moins long sur Robert Rodriguez. Hein.
Merci.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Rodriguez, il avait réalisé son premier film dans El Mariachi en 92. Hein, à la même époque, il y a Tarantino qui sortait Reservoir Dogs, et il avait financé son premier film qui avait coûté $7,000.
C'est la légende, ça.
Ouais. En servant de cobaye scientifique. Bon, ça c'est dans le dossier de presse.
En vendant son sang. Enfin,
ouais, voilà.
Non, mais attends, du sport. Si c'est dans le dossier de presse, c'est pas faux. Non, voilà. Pardon, je déconne.
Et donc, il cumulait plusieurs fonctions sur ce film. Donc, il a gardé cette habitude-là pour les suivants. Donc, il cumulait les fonctions de réalisateur, producteur, scénariste.
Là aussi, c'est un homme à tout faire, comme Frank Miller. Miller, scénariste, dessinateur.
Exactement.
Il aime bien connaître le côté technique pour pouvoir mettre ses idées. Ouais.
Et puis, il fonctionne aussi bien en duo que tout seul, Frank Miller. Mais aussi, il a cumulé les fonctions de directeur de la photo, monteur, mixeur, chef opérateur, créateur des effets spéciaux, monteur son et photographe de plateau. Donc voilà, donc il s'est fait connaître avec El Mariachi, qui a été primé dans plusieurs festivals, notamment celui de Sundance. Et dans la foulée, il a écrit un bouquin qui s'appelle Rebel Without a Crew, or How 20... bon, allez, je vais le dire en français. Un rebelle un mec de 23 ans avec $7,000 est devenu un des hommes phares d'Hollywood.
Il n'a pas complètement tort, puisqu'il a réalisé quand même de magnifiques chefs-d'œuvre.
Oui, ou pas. Ensuite, il a fait en 95 Desperado avec une participation de son nouveau pote qui
Tarantino, qui est devenu producteur exécutif avec le producteur de Tarantino, Roger Avary.
Voilà. Et il a réalisé aussi un des segments de Four Rooms, avec Banderas, et sachant que Tarantino avait réalisé un autre sur ce même film. 96, Une nuit en enfer, From Dusk Till Dawn avec donc Tarantino et George Clooney, qui était pas si raté que ça finalement, bonne moitié du film.
Oui, et surtout une vision des vampires et des chasseurs de vampires, adeptes du chronomètre, c'est assez poilant.
Oui, vous croyez aux vampires ? Je ne crois pas aux vampires, mais je crois à ce que je vois. C'était la phrase qui revenait beaucoup dans le film. Ensuite, il s'est un peu perdu, c'était en 96, deux ans plus tard, il a réalisé Ewe is the Faculty. Donc il a dit après que ça lui avait servi à expérimenter le numérique pour la véritable...
Ouais, Faculty, qui est quand même un bon petit film d'horreur, hein, on va dire ce qu'il est quand même, c'est assez rigolo.
C'est très fun, ouais.
Et puis bon,
très
fun, ta femme que Janssen dedans.
Il y a également Robert Patrick, le Terminator, ouais, le T-1000. Bon, quand même, ça se laisse regarder. Hein.
Et donc il a dit que justement il avait expérimenté le numérique dans ce film pour explorer à fond le numérique dans La vocation de sa vie. Le film qui allait suivre, c'était... Spy Kids,
excellent,
magnifique, un chef-d'œuvre absolu.
Oui, absolu, oui. Ensuite, Spy Kids 2, Espion en herbe, Spy Kids 3, Mission 3D.
Avec une store internationale.
Oui, dans le 3, Stallone quand même. Hein.
Oui, mais tu dis tu ne ris pas, mais tu ris quand même. Non, je suis désolé, il faut le prendre en premier degré cette chronique.
Bon, ensuite, 2003, la même année d'Desperado 2, il était une fois au Mexique avec Johnny Depp et toute la clique, Salma Hayek, etc. Aujourd'hui sort Sin City. À noter aussi également que cet été aux États-Unis va sortir un autre film de Rodriguez, décidément, The Adventures of Sharkboy and Lava Girl in 3D, coécrit avec son fils de 7 ans qu'il a appelé Racer Max. Ce mec est fou.
Racer Max.
Un hommage peut-être à Matt Gibson, je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc la filmo de Rodriguez, je te cache pas qu'en tant qu'auditeur, je préférais entendre celle de Frank Miller. C'est mieux
Non, Roberto Rodriguez, justement, s'il a fait les... Là où il a été très fort, c'est qu'il a accepté de faire Spy Kids complètement au second degré, parce qu'il s'est dit, comme ça Hollywood, ils vont me filer plein de fric, puisque c'est censé être un film bourré d'effets spéciaux, et donc je vais pouvoir m'entraîner un max. C'est ce qu'il a fait, et il a très bien fait.
Voilà, donc on va revenir... tout à fait, tu as raison. On va revenir au film Sin City.
Alors moi, il y a une question qui me taraude sur le film lui-même. C'est, fallait avoir vraiment des... Pour sortir un film en noir et blanc au moment des adaptations de comics en couleur, etc., et est-ce que par hasard il a pas trop adapté trop fidèlement la bande dessinée?
C'est toi le spécialiste de la bande dessinée, mais
c'est vrai que par les cadrages, moi je trouve que des fois il est allé trop loin.
C'est vrai. Bon, après où se situe la fidélité extrême, et où est-ce que se situe le plaisir du spectateur? Est-ce que c'est dans la fidélité au bouquin, ou est-ce que le spectateur attend un peu plus d'implication de la part du réalisateur pour qu'il donne un peu sa propre vision sur l'œuvre de quelqu'un d'autre? À partir du moment où Frank Miller était également co-réalisateur, ça peut s'expliquer également qu'il soit resté finalement trop fidèle, peut-être.
Enfin bon, en tout cas, nous on est allé le voir, c'était bourré de stars.
Tu l'as pas vu du sport, non?
Donc il faut signaler quand même la légende à propos de la partie de début, c'est qu'elle a été tournée en une journée, c'était un bout d'essai.
Oui. Alors là, on va revenir sur la genèse avant de parler du casting. Donc Robert Rodriguez a commencé par harceler l'avocat de Frank Miller, puis il a harcelé son éditeur, puis Frank Miller, il a dit je voudrais bien adapter Sin City. Bon, alors pour prouver qu'il pouvait le faire, il a d'abord réalisé un petit test visuel dans son ranch à Troublemaker Studio, la boîte qu'il a fondée à Austin, et il a montré dans un bar à Frank Miller sur son ordinateur portable, et là Frank Miller il a dit ça a l'air puissant, les effets que tu veux faire, fonce mon gars, pourquoi pas.
Je crois qu'il avait fait venir carrément chez lui.
C'est la seconde histoire. Ensuite ça c'était juste un test. Ensuite il a réalisé une séquence test un peu plus abouti avec ses potes, donc c'est la séquence avec Josh Hartnett qui ouvre le film. Et là, il a fait venir Frank Miller, effectivement, et puis il a dit, regarde ce que j'ai tourné en 10 heures, en une journée, avec mes potes. Et voilà, et donc il a dit à Frank Miller, c'est une séquence test, qu'est-ce que tu en dis? Ok, j'aimerais bien que tu sois co-réalisateur avec moi. Donc l'autre, il a accepté. Il a ensuite dit en interview, Miller, c'est ça, une séquence test, mon cul, ils avaient déjà la première séquence du film, ces enculés d'Hollywood. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Ce qu'il faut savoir aussi sur les à côté de la production du film, c'est que Robert Rodriguez, pendant le tournage, il voulait à tel point que Frank Miller soit co-réalisateur avec lui qu'il a dû quitter la Directors Guild des réalisateurs d'Hollywood, puisque d'après ses règlements ultra calibrés, ben, il refuse, la Directors Guild refuse qu'il y ait deux réalisateurs crédités pour un film. Alors là, c'est difficilement compréhensible, puisque à ce niveau-là, pourquoi les frères Wachowski ont réussi.
Non, je crois que c'était voulu pour une raison toute simple, c'était pour éviter que un producteur se mette comme réalisateur en faisant les coupes. Puisqu'il n'y a pas d'Oscar de producteur.
Voilà, donc ça lui a coûté sa place à Director's Guide et ça lui a également coûté apparemment. Là, tu vas péter les oreilles. Hein.
Excuse-moi.
Ça lui a également coûté la réalisation du projet Princess of Mars qui était prévu pour la Paramount. Le tournage était prévu en 2006. Voilà, donc si on va peut-être revenir au film, sur le pitch du film. Donc il faut savoir que ce sont trois histoires dans le film, trois petits cours en fait. Enfin, le film est divisé en trois parties qui sont adaptées de trois histoires des bouquins de Sin City. Donc on a Sin City, l'histoire avec Marv et Goldie. Donc c'est la partie avec Mickey Rourke.
Absolument monstrueux.
Ouais, tout à fait, également à tous les points de vue. Ensuite on a l'histoire Le Grand Carnage. C'est l'histoire de Dwight et les prostituées, donc avec la partie avec Clive Owen et Rosario Dawson, etc. Et on a également, bon, à mon avis, ça c'est la partie peut-être la plus faible du film. Je sais pas ton avis. Moi, j'ai plus de facilité à m'impliquer dans l'histoire de Marv et l'histoire justement d'Artigan et de Nancy, la stripteaseuse, la gogo danseuse à la fin.
Moi aussi, moi, je trouve que c'était mieux.
Voilà, donc le film est divisé en trois. Bon, la dernière histoire, c'est celle avec Bruce Willis et Jessica Alba. tant qu'on est aux interprétations, je te demandais ton avis, Xavier, mais enfin, pour en avoir déjà discuté avec toi, je disais que Clive Owen, finalement, l'interprète de Dwight, c'est celui qui m'avait fait le moins d'effet dans le film. Je le trouvais un petit côté cabot, qui finalement décrédibilisait un peu son segment, mais bon.
Je crois aussi que le personnage était voulu comme ça, mais je crois qu'il a un peu mal compris. Par contre, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est très impressionnant que les acteurs aient pu travailler intégralement sur fond vert et fond bleu, puisque tous les décors sont numériques, etc. Les effets graphiques sont impressionnants, c'est vraiment les effets de la bande dessinée. Quand vous voyez un mur de briques avec les ombres qui se découpent, et dans l'ombre, et ben les joints de briques ressortent blancs comme ça, c'est comme ça dans la BD, c'est ça qui est magnifique. Et après, le jeu des acteurs, ben, on imagine bien que les acteurs, ils ont dû être ravis. Moi, je vois très bien Bruce Willis avec l'intégrale des Batman de Frank Miller arriver sur le plateau et dire s'il vous plaît pouvez me faire une dédicace avant de tourner.
Ouais c'est vrai, c'est vrai.
C'est énorme, il n'y a pas d'autre terme. Là ils se sont fait plaisir. Graphiquement c'est littéralement superbe.
Un piqué les absolument étonnant.
Les incrustations 3D par contre ont manqué sérieusement de boulot et c'est un peu dommage.
Moi je dirais la cohabitation d'éléments 3D plutôt que l'incrustation à proprement parler, parce que on peut voir des éléments animés en 3D qui effectivement là ils font un peu tâche. Par exemple on va parler des
tous les mouvements de corps sont un peu loupés.
Voilà. J'en restais au casting. Je voudrais quand même donner un grand coup de cœur, à part évidemment Mickey Rourke qui est monumental, mais ça tout le monde l'a dit. Un petit coup de cœur aussi à Benicio del Toro quand même. Hein. Franchement, là, monstrueux comme d'habitude. D'ailleurs, c'est la séquence. On va pas spoiler le film, mais la séquence où il dialogue en bagnole, une séquence tout à fait étrange et intéressante avec justement Clive Owen, a été réalisée par Tarantino, qui était venu en réalisateur invité, qui a tourné pour $1, puisqu'il rendait la monnaie de sa pièce à.
C'est le cas de le dire d'ailleurs, puisque Roberto Rodriguez avait tourné pour $1, je crois, parce que
pour Kill Bill,
l'autre était trop pressé. Et là, du coup, il s'est mis au numérique et il a dit que quand même le numérique. Et j'avais des a priori, mais après tout.
Ouais. Et puis bon, on profite du sport et là pour signaler aussi la petite apparition de Ruggi dans le film, Roger Auer.
Ah.
Et oui, en prêtre fou, maître de la ville. Cannibale et
qui est habitué aux fins apocalyptiques avec des tirades absolument larmoyantes. C'est
voilà,
étonnant. Je l'avais pas reconnu au début.
Un petit clin d'œil à Blade Runner. Voilà. Ben après, bon, on va dire aussi que c'est extrêmement fidèle au comic book. Et ça, il y a pas tortillé. Tu disais ça tout à l'heure. C'est la grande force du film. Hein,
c'est très très fort. Pour ça, si vous n'avez pas aimé. Prenez le premier Sin City. Si vous accrochez pas, n'insistez pas.
Par contre, j'aurais un petit bémol à ajouter. À part le tour de force technique du film, je trouve que pour, on va rapprocher ça de l'attitude de Tarantino qu'il avait eu pour Kill Bill, les deux volets. C'était un film hommage avec des personnages super caricaturaux, archétypaux, etc. Mais Tarantino avait joué là-dessus, il avait créé des moments de cinéma assez forts, c'est-à-dire des petits détails qui sont amplifiés par une mise en scène qui s'éternise, ou des petits jeux d'acteurs fondés sur le regard, etc. Des plans assez longs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu à Sin City. C'est-à-dire, c'est une adaptation excellente, mais ça dépasse pas le cadre de l'adaptation, je trouve.
Trop fidèle.
Voilà.
Trop fidèle, mais bon, à part les pointes de couleur, mais là c'est superbe.
On va signaler quelques petites dernières choses.
Oui, deux dernières parce que du sport s'impatiente. Ouais,
j'ai vu sur le net qu'il y avait une préquelle qui était annoncée pour l'année prochaine et qui serait adaptée, donc serait adaptée de du segment Dame to Kill For, J'ai tué pour elle. Et avec
théoriquement il y aurait ouais. eu neuf histoires qui auraient été faites et c'est prévu pour le DVD.
Attends, 9 histoires, ça veut dire qu'il y aurait 2 histoires originales? Puisque la série Sin City n'en comporte que 7.
Non. Et parce qu'il y a eu des histoires qui n'ont pas été publiées en album. Voilà. Voilà, voilà.
Voilà, et bon, ben voilà. Écoutez, vous pouvez vous précipiter sur le film, ça reste quand même un excellent film. J'espère que du sport, tu iras le voir, on t'a donné envie.
Yes.
Bon. Eh ben, ça tombe bien, du sport. Ouais, on va enchaîner un peu sec parce qu'il se fait un peu tard. Et en plus, tu as pas mal en sport. Hein.
Bah, ouais, non, pas trop, on va dire.
On a gagné hier?
Non.
On a perdu contre le Stade français?
Eh ouais.
Ouais, chaque fois qu'on gagne en Europe et on perd en national.
Eh ouais.
Un truc que je comprends pas.
Qu'est-ce que tu veux,
hein. Enfin bon. On va peut-être.
Mais c'est vrai aussi dans certains championnats de foot, pas forcément actuellement, mais enfin dans les décennies qui sont passées, par exemple. En Angleterre, à un moment, c'est plus facile d'être champion d'Europe, de gagner la Coupe des Champions, que d'être champion d'Angleterre.
Donc, en Italie aussi.
En Italie aussi, à un certain moment, hein, c'est plus le cas maintenant, quoi. Mais bon, c'est pareil, hein, voilà, c'est tout. Alors, un petit peu de cinéma quand même avant, hein, parce que bon, dans National Geographic, qui est pas spécialement réputé pour parler de cinéma, il y a quand même des chiffres. C'est les chiffres qui sont sortis dans le Screen Digest concernant le cinéma en 2003.
Ouais.
En fait, alors le plus gros producteur de films par an, on le sait, hein, c'est l'Inde.
Largement en tête,
1100 films sortis. En une année, c'est l'année 2003 qui est tenue en compte là, et c'est les États-Unis qui sont juste derrière avec 593.
Ah bon ? Non, l'Égypte a pas énormément perdu dans les années 90.
Ah non, y a
mais
pas
je crois qu'il y a la Chine qui remonte très très fort.
Hein, pour l'instant, la Chine est sixième hein, avec 140 films de sortis. En deuxième position, c'est les États-Unis. Troisième position, le Japon avec 287 films sortis contre seulement 212 en France, qui termine à la plus mauvaise marche du podium.
Ah mais ils n'ont pas de médaille.
Voilà, ils ont pas de médaille. Il y a également l'ensemble de l'Europe hein, qui se tient bien, puisque après on a le 5e, le 8e, le 9e et le 7e, hein, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et le Royaume-Uni, et il y a la Chine qui vient s'intercaler donc avec ses 140, et il y a également le Bangladesh qui est dans le top 10 avec 96 films sortis en 2003.
Hein,
voilà, ouais, ça te scie, hein. Ce qui peut également te scier, c'est que si tu vas voir un film dans une salle chinoise, eh bien entendu, tu boufferas des pop-corn. Bon, la seule différence que comme aux États-Unis, le pop-corn, tu l'as salé généralement. En Europe, quand on a introduit ce mode dans les salles de cinéma, dans les multiplex, on vous donne le choix, hein, salé ou sucré. Ouais. D'accord. En Chine, c'est sucré. Point. Mais en Chine, par contre, tu peux également manger du chou épicé au cinéma, des prunes salées ou des lanières de calmar desséchées.
Et les prunes... Non, les prunes salées, c'est très bon. Et les lanières de calmar, mine de rien, c'est un truc, ça ressemble un peu à de la réglisse. Hein,
au cinéma.
C'est pas mauvais, ouais.
Au cinéma.
C'est pas mauvais. Mais finalement,
merci les gars. Et nous, on se plaint parce qu'il y a des mecs qui ont leur portable qui sonne dans les salles de cinéma.
Ah non, les notes sont systématiquement éteintes. Et maintenant, on a une tradition, c'est qu'on mange du popcorn. Bon, on arrête pendant le film, ça, faut pas déconner. Et finalement, je préfère le popcorn salé, tu vois.
Et qui c'est qui a fait le bon choix, mercredi, c'est moi.
Bon, d'accord, ok.
Du sport.
Eh ben, vous n'êtes pas sans vous souvenir que dimanche dernier, il fallait faire un choix crucial.
Oui ou non?
Bien sûr que non, entre TF1
et France 2.
Ah oui, c'était entre
il y avait CS,
Les Experts et FBI
et Without a Trace, où FBI porté disparu, TF1 l'a emporté quand même haut la main,
très haut la main, je crois que c'est du 1 contre 2,
9 millions de téléspectateurs pour regarder CS.
Ah, moi j'ai choisi France 2.
Contre seulement 4,5 millions pour regarder Without a Trace.
Ce qui est énorme, c'est la première fois que TF1 diffusait une série en prime time, je crois depuis 15 ans.
Non mais
et là ils ont fait le bon choix quoi.
Ouais ouais oui, mais il faut pas uniquement considérer ces chiffres comme une opposition entre différentes chaînes. Il faut dire que si on cumule ces chiffres, ça veut dire que bon, on peut dire qu'il y a quand même 13-14 millions de personnes qui étaient devant une série. Bon, étrangère, américaine, d'accord, je vous
l'avoue. Et produite par Et produite par
C'était deux séries produites par Jerry Bruckheimer. Eh oui.
Et oui, c'est lui. C'est les mêmes
équipes. Pearl Harbor.
Et des fois, c'est les scénaristes et les équipes s'interchangent, d'ailleurs.
Bad Boys.
Bad Boys. Eh ouais. Enfin bon, c'était quand même des épisodes inédits, il faut le signaler. Et bon, bah, c'est un petit test. Hein. On sait déjà que de toute façon, ça va être reconduit pour cet été, hein, la diffusion en prime time de Without a Trace, des épisodes inédits. Et la deuxième saison hein, également, parce qu'on a vu quelques épisodes de la saison 1. Et pour CSI Miami, c'est un petit peu pareil. Ils vont voir s'ils peuvent pas caser ça. Mais enfin bon, chez TF1, c'est quand même un tout petit peu plus difficile. Hein. Ils ont pas la même liberté au niveau de...
Oh, t'inquiète, à la vitesse à laquelle ils font à laquelle ils diffusent les CSI... Las Vegas, une fois qu'ils auront épuisé, là, on va enchaîner direct.
Oui, mais
ce qui serait logique.
Oui, mais ça les emmerde pas de rediffuser des épisodes, hein, sachant qu'ils ont été diffusés très tard le soir. Quand tu les diffuses un peu plus tôt, voire dans l'après-midi, ça s'adresse pour eux à une toute autre clientèle. Donc,
ils n'ont pas tort d'ailleurs.
Without a Trace d'ailleurs qui sera à l'antenne dès mercredi. Hein, c'est sur France 2 à partir de 21h. Et là, avec deux épisodes, c'est normal, c'est retombé. 1 est retombé 2, donc 2 fois 50 minutes. C'est un inédit quand même de la saison 1 hein, qui nous est proposé donc par France 2 mercredi prochain.
Face de Aix. Hein.
Ouais, mais enfin bon, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Pour les plus petits et pour les plus jeunes et pour les légèrement déviants, on va dire, c'est la reprise de diffusion d'une série animée qui date quand même de 67. Et là, c'était le bel âge pour les séries animées américaines, Hanna-Barbera, toute la bande et tout. Ça produisait vraiment à donf, à tour de bras. Et là, ça nous interpelle quelque part car il s'agit des 4 fantastiques.
Les 4 fantastiques.
Ils s'en profitent hein, pour le
futur comme le succès. Le film va sortir le 12 ou 13 juillet, me semble-t-il. Eh bien, tous les jours de la semaine sur la chaîne Boomerang, hein, bon, c'est une chaîne de gamins hein, pour les gamins, à 11h35 ou à 21h40, les 4 fantastiques, donc cette série animée qui date de 1967. L'événement télévisuel de cette semaine. C'est quand même également encore un petit match, on va dire, entre deux chaînes. Là, il s'agit bien entendu toujours d'un côté TF1, mais de l'autre, ce n'est plus la chaîne publique. Non, c'est Canal+. Et là, on parle de docu-fiction.
Ah ouais.
Docu-fiction avec Canal+, qui va dégainer en premier mardi à 20h55. TF1 dégainera deux jours plus tard, c'est jeudi à 20h55. Avec deux...
Non, pardon.
Un peu tard, mais bon, bien
vu. Tu me laisses pas le temps.
Un peu tard, mais bien vu quand même. Mais qui s'attachent tous les deux bien à une page d'histoire et à une page d'histoire qui nous intéresse, hein, l'histoire de France, l'histoire de la France contemporaine, les gars. Et en plus, hein, à une année près, ça s'est passé en moins d'une année, hein, les deux événements. Le premier sur TF1. Alors on peut également, au vu des sujets qui sont proposés par les deux chaînes, voir un petit peu la différence qu'il y a entre ce qu'on cherche
à faire sortir le discours exergue, que l'on veut mettre
et ce qu'on veut représenter aux téléspectateurs. Hein. Pour TF1, ça va rester très clean. Et bon, bah quand je vous citerai le nom du producteur, vous aurez compris, il voulait tuer De Gaulle.
L'attentat du petit Clamart.
Alors, l'attentat du petit Clamart, hein, c'est une enquête quand même. D'après une enquête de Georges-Marc Benamou, qui a quand même sorti des bouquins en tant que journaliste politique assez sérieux, hein, reconnu d'une de part et d'autre, on va dire, hein, puisque bon, bah il paraît que la politique, c'est oui ou c'est non. C'est réalisé par Jean-Teddy Philippe et c'est produit par Charles Villeneuve et Claude Chély. L'attentat du petit Clamart qui a eu lieu donc le 22 août 62, hein, 150 balles environ ont été tirées en moins de 10 secondes. La DS
présidentielle bien massacrée.
Surélevé, parce que bon, bah, il était grand le Charlie, donc on lui a fait une DS sur mesure avec le toit qui est un peu plus haut, criblé de balles, et le général qui s'en sort indemne. Et par la suite, bon ben, on a trouvé qui étaient les responsables, des anciens de l'OAS. On dit les anciens de l'OAS parce que à l'époque l'OAS avait déjà été dissoute, mais il restait encore des mecs qui en avaient comme ça et qui étaient pas d'accord, qui trouvaient que De Gaulle était communiste, qu'il fallait tous les foutre dehors et donc qui avaient fomenté cet attentat. Il y a quand même deux anciens gradés de l'armée française, très haut gradés, on va dire,
ouais, hein,
dont l'un a été fusillé à la suite de cet attentat. Ça a été le dernier fusillé français de l'histoire, hein. Après, on les a passés à la guillotine.
Je crois que c'est le seul d'ailleurs qui a été, je crois que c'est le seul français
en temps de
après
paix.
Des années 50 à avoir été jugé sur la qualification de trahison d'État,
jugé,
un truc comme ça. Ah oui, tout à
fait. Ok, il y en a d'autres qui sont encore présents, qui sont encore vivants d'ailleurs, hein, parce que ce docu-fiction sur TF1, eh bien, c'est un mélange entre des images de fiction, c'est-à-dire on a reconstitué avec des acteurs l'attentat lui-même. Il y a également des archives, il y a également des témoignages filmés par les personnages qui sont encore existants, dont trois personnes qui ont fait partie du commando, hein, Alain Bougrenet de la Tocnay, qui était d'ailleurs le patron, hein, qui a organisé cet attentat, ainsi qu'Armand Belvisi et Lajos Marton. Tout ça donc c'est sur TF1. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Pratiquement en face, on va dire, hein, c'est pas la même soirée. Deux jours plus tôt, Nuit Noire sur Canal+. Alors là, ben, il s'agit d'une fiction, c'est-à-dire filmée, hein, avec un seul personnage en plus qui est réel et qu'on connaît dans la vie. Il s'agit de Maurice Papon, qui à l'époque était préfet de police.
Avec début... François Mitterrand, ministre de l'Intérieur.
Ministre de l'Intérieur, faut pas l'oublier non plus. début octobre 61, tout au début octobre, Papon décrète le couvre-feu pour les Français d'origine musulmane et d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de sortir après une certaine heure, après 7h, 8h du soir. Le FLN propose une manifestation pacifique dans Paris qui doit avoir lieu quelques jours plus tard. Quelques semaines plus tard, elle a lieu le 17 octobre 61. Elle est réprimée dans le sang.
Je crois qu'il y a eu 14 morts, non, un truc comme ça.
Officiel.
Oui, pardon.
On va dire. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose que Charonne. Hein. Charonne, c'est différent. C'est le métro de Charonne. Hein. Ça s'est passé avant. Et c'est une fiction interprétée par Clotilde Courau qui va jouer le rôle d'une intello aristocrate un peu bourgeoise qui survole un petit peu les événements, mais c'est la façon dont ça a été monté qui est peut-être la plus intéressante, car il s'agit au travers de destins croisés ou de destins qui sont pas forcément croisés, de destins divers, hein, dans différentes couches de la population française, de retranscrire quelle était l'atmosphère à l'époque. Parce que bon, bah, nous on se dit ok, des mecs qui défilent pacifiquement, d'autres qui leur rentrent dans la gueule sans aucune raison. Bon, il faut se rappeler également que l'ambiance était pas top, que des flics en France se faisaient assassiner comme ça dans la rue, boum, une balle dans la tête ou des trucs comme ça, ou qu'il y avait des rumeurs d'attentats même en France métropolitaine, hein, il n'y avait pas qu'en Algérie et Alger que ça pétait. Donc il y avait quand même un climat un peu lourdingue, on va dire, à l'époque. Et le scénario de Patrick Rothman et la réalisation d'Alain Tasma, Tasma on le présente plus, il a réalisé X téléfilms et X, il a fait du Julie Lescaut, il a tout fait ce monsieur à la télé, hein, de toute façon il n'y a pas de problème. Il s'attache justement à rendre un petit peu mieux et à essayer de mieux faire comprendre ce qui s'est effectivement passé ce jour-là. Nuit Noire, donc c'est sur Canal+, mardi à 20h55, et donc je rappelle qu'il a quand même, il voulait tuer De Gaulle, une autre docu-fiction, c'est sur TF1, jeudi à 20h55. Et si vous voulez en savoir plus sur l'OAS, Odyssée vous propose un documentaire qui s'appelle OAS, une histoire interdite, par François-Georges Margolin et Georges Marc Benamou. Ben voyons, eh oui. C'est vendredi prochain sur Odyssée à partir de 21h. Tu veux qu'on parle un peu de série quand même?
Ouais, oui.
Eh bien.
Tu sais que Thomas, il a encore tout émoustillé, hein. Eh oui, puisque hier c'était.
Dernier épisode.
Voilà. Les deux derniers.
Ouais, les deux derniers, qui se passent à Paris, avec l'apparition de Carole Bouquet, etc.
Ouais, qui sont un peu mollassants d'ailleurs. En
ouais,
plus, hein, qui sont pas top.
Assez mélancoliques, hein.
Ouais. Mais enfin, bon, bourré de clichés, hein. Je veux dire, les ricains, changeront pas, quoi. Pourtant, quand on voit des séries intelligentes comme ça, on peut se dire que les scénaristes le sont également. Hein, et sont un peu plus évolués. Bon, enfin bon, ça reste quand même dans une sphère très américano-américaine. Hein. C'est ça qui est un petit peu dommage, hein, je veux dire, terminer comme ça, quoi. Ce soir, il est peut-être question aussi de fin, hein, d'ailleurs. C'est à propos de New York Section Criminelle. parce que dans le premier épisode de ce soir, il n'y a qu'un seul épisode inédit de la saison 4 ce soir. C'est le premier qui s'appelle Enfer carcéral. Et on voit, eh bien, le retour de Mike Logan. Qui est Mike Logan? Eh bien, c'est Logan de New York District, hein, des toutes premières saisons de New York District, interprété par Chris Knott, Mr. Big.
Ah, voilà. Oui, bravo, hein.
Et
franchement.
Et Mike Logan revient porter un coup de main à Vincent D'Onofrio. On se demande pourquoi, parce que Goren, c'est Sherlock Holmes, il sait tout faire, il peut tout faire, il est génial. Terrible, terrible.
On va faire un gimmick de ces quatre, parce que il le place à peu près une fois toutes les deux émissions.
Mais attends, ça risque de changer, malheureusement. Et pourquoi Mike Logan arrive? Ben parce que il a toujours été un des piliers de cette série, hein, New York District, hein, dont la section criminelle est un spin-off. Il a tenu 5 ans dans la version primaire, dans la première version. Il a refait des apparitions, il a tourné dans des téléfilms qui intégraient. Il a également été invité dans d'autres séries dérivées. On l'a vu également dans une autre série dérivée, dans la série New York Special Unit. Voilà, je vais y arriver. Donc c'est un habitué. Et pourquoi il revient ce soir dans cet épisode Enfer carcéral? Il faut dire que depuis cet hiver, Vincent D'Onofrio, l'acteur, est déjà allé deux fois à l'hosto pour des problèmes physiques assez importants. Je peux pas en savoir plus. J'essaye de savoir.
Non, attends, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée.
Bref. Vincent D'Onofrio qui déjà en début de saison avait dit bon, j'ai envie d'arrêter. C'est peut-être lié à ses problèmes physiques justement, quoi. Dick Wolf, le patron de la franchise, on va dire, lui a dit non, il est trop bon, et c'est vrai qu'il est vraiment génial dans ce segment. Et le problème, c'est que Vincent D'Onofrio risque d'arrêter. Pourquoi? Pour problème physique, d'arrêter le rôle. Et donc c'est pour cela que Dick Wolf se prépare une petite porte de sortie en se disant on peut peut-être faire revenir Mike Logan, parce qu'il faut se rappeler que Mike Logan, s'il a quitté la série New York District, c'est qu'en fait dans le dernier épisode on le voit apparaître, il y a un sacré problème, il fout le bordel, il est question de faux témoignages, enfin d'histoires pas nettes, et donc il se fait muter dans un autre commissariat à Staten Island. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui permet de les faire causer quand on voit Mike Logan revenir dans d'autres épisodes, dans d'autres séries. Qu'est-ce que tu fous à Staten Island? Parce que la série originale se passe à Manhattan.
Voilà.
D'accord, un des Five Boroughs. Dont Staten Island fait également partie, hein, bien entendu. Et là, Chris Knott, Mike Logan, donc, pourrait reprendre carrément le rôle principal de New York Section Criminelle si il y avait défection de Vincent D'Onofrio. Donc, à vérifier dès ce soir, hein, Chris Knott, comme invité pour l'instant, qui viendra filer un coup de main à Catherine Herb et à Vincent D'Onofrio dans l'épisode Enfer carcéral. Sinon, il y a du neuf. Enfin, c'est pas tout à fait du neuf, on va dire. Hein, ça a déjà été diffusé, mais enfin, sur une chaîne du câble, donc. Pour se trouver, il fallait se lever tôt quand même, ou écouter Radio Éphémère quand je fais ma rubrique. Il s'agit d'épisode de Prime Suspect, suspect numéro 1, Hélène Mirren. Et alors, si vous connaissez Hélène Mirren, actrice de la Royal Shakespeare Company, qu'on a pu voir dans beaucoup de films, hein, vraiment elle est très très connue. Et elle a fait également une superbe apparition en compagnie de Malcolm McDowell dans le soft ou porno, ça dépend de la version, Caligula. Où vraiment elle joue les petites donzelles. À l'époque elle était très jeune et très mignonne, hein, faut dire. Mais il faut dire que dans Prime Suspect elle paye également de sa personne, hein, je veux dire, dans les premiers épisodes on la voit coucher avec un mec rencontré le soir, alors qu'elle est commissaire responsable d'une équipe de détectives en Angleterre. On a couché avec un mec et tout, à moitié à poil, tranquille, vas-y, ça envoie le bois quand même. Là il s'agit de la sixième section, d'un épisode de la sixième saison qui s'appelle Souvenir assassin de Bosnie, et donc qui a déjà été diffusé. C'est con pour vous, enfin moi j'ai déjà vu. C'est diffusé sur Canal Jimmy lundi prochain à 20h50, ou alors mercredi à 22h25, juste après cette espèce de petit truc qui essaye de rattraper ce que faisait Canal Jimmy il y a des années, qui était excellent, qui s'appelait le truc sur les séries avec Alain Carazé, qui était vraiment très très bien, avec des dossiers complets, des thématiques, enfin
c'était Destination Série.
Destination Série, voilà, ouais. Là ça s'appelle Série en coulisses, c'est un petit peu plus court, ça fait 5 minutes. Et bon, le présentateur est néanmoins un petit peu fade, pas l'air assez impliqué dans son business. C'est un petit peu con parce que ça fout tout en l'air. Pourtant, ils ont quand même des
candidatures
intéressantes. Prime Suspect, donc c'est la semaine prochaine. Il y en aura un autre inédit entre guillemets qui sera diffusé la semaine suivante. Sinon. Comme j'ai fait le tour, quelques petits films vite fait, quoi. Hein, avec La chair et le sang la semaine prochaine.
Ah, ça, ah ouais, ouais, ça c'est, ah, yes, c'est fort.
Rock and Roll, carrément Rock and Roll. Et Verhoeven, c'est un mec qui plaît bien à M6 parce qu'il diffuse également Robocop lundi prochain après La revanche des Jedi. Hein, ça fait la bonne soirée sur M6 quand même. La chair et le sang c'est diffusé jeudi prochain en à 23h, donc en deuxième partie de soirée. Et c'est con parce que ça peut faire une soirée pas mal avec première partie bien rigolade avec un Anar Z excellent que j'ai déjà vu deux fois et chaque fois eh ben, je revois, je me pisse dessus de rire. Il est rediffusé, multidiffusé par RTL9, c'est jeudi prochain à 20h45, c'est Mutant Aquatique en Liberté. Je crois que vous en avez déjà parlé.
Ah, c'est énorme ce truc.
Ce truc de Sean Cunningham de 89 avec Marius Weyers, Torian Black, c'est le mec le plus connu, hein, et Nancy Everhart. Alors c'est histoire de scientifiques qui sont dans un sous-marin et puis bon, ils sont attaqués par une créature sous-marine.
Genre, c'est lamentable.
C'est le habit du pauvre, tu vois.
D'accord.
Mais c'est carrément jouissif, c'est génial. C'est bondé de répliques à se pisser dessus de rire, c'est génial.
Tu sens que les mecs, ils sont salariés, tu vois, dans une boîte où ils doivent pondre du scénario, ils ont dit bon allez.
À ce niveau-là, c'est du top class. Hein. C'est vraiment très fort. Mutant Aquatique en Liberté, c'est jeudi prochain à 20h45 sur RTL. Et comme on est à RTL, ce soir, RTL 9 vous propose une soirée ciné pas trop dégueulasse, hein, je veux dire, avec un premier film pour rigoler. Ça a été un petit film, on va dire. Il a été injustement descendu par la critique à l'époque. Il est sorti en 99. Son réalisateur, Kika Usher, ne vous dit rien.
Alors, absolument pas.
Nada, que dalle. C'est Mystery Men. Là, ça vous dit déjà un petit peu plus quelque chose.
Programmé par la Cinémathèque, un cycle super-héros, il n'y a pas si longtemps.
Et voilà, très fort.
Très bon. Avec des acteurs qui sont géniaux. Greg Kinnear, Hank Azaria, Geoffrey Rush, qui a été oscarisé. Ben Stiller, qui devrait être oscarisé à chaque fois. William H. Macy, je crois qu'il a également déjà été oscarisé, il me semble-t-il.
Pour Fargo, peut-être.
Pour Fargo, en second rôle, il me semble, un truc comme ça. Ainsi que Janan Garofalo et Claire Forlani. C'est une bonne comédie, on va dire. Vraiment une
excellent.
Bonne comédie. C'est pas un sommet, ça rappelle pas les délires des frères Cohen. Mais c'est vraiment très très bien, hein, dans l'esprit.
C'est à quoi ça me fait penser? À The Tick.
Voilà, c'est un petit peu le The Tick. Ouais, c'est bien, très bien fort. Que tu me rappelles ça, c'est dans cet esprit-là, on va dire. Avec un Ben Stiller. Bon, c'est con parce que ce film, je pense que le petit défaut qu'il y a dans ce film, c'est qu'en fait, il y a des segments qui sont un petit peu séparés comme ça. Vous parliez de segments à propos de Sin City. Ouais. Là, c'est pareil. On a l'impression que il y a des moments très forts, mais ça retombe. Des fois, il y a des passages un petit peu plus cool. Il y a un problème de découpage dans ce film qui est petit.
Un petit côté remplissage.
Ouais.
Par le nombre de super-héros dedans, c'est ça.
Non. Par la manière dont l'action se déroule. Hein, je veux dire,
en tout cas, moi je le trouve fabuleux.
Voilà,
franchement, pour l'amateur de comics, de super-héros, etc., vous allez vous fendre la poire.
Et comme il faut redevenir sérieux un peu plus tard dans la soirée, 22h55, un petit American Samurai de Sam Furstenberg. Attention, parce que alors là, David Bradley d'un côté, Mark Dacascos de l'autre, il n'était pas connu à l'époque que de Christopher.
Oui,
et de ma femme.
Non, doucement, chaque fois qu'on rit, on retarde. Là, il est 16h30, 13h30, hein, quand même.
Ouais. American Samurai, donc c'est juste après Mystery Man. Et si ça vous fait chier de regarder ce genre de film, parce que bon, vous préférez être un petit peu sérieux ou voire dogmatique, il y a également une approche du Western Spaghetti ce soir sur France 5 à 20h45. C'est un documentaire, Il était une fois le Western Spaghetti. Mais à travers un tout petit prisme, le prisme des films de Sergio Leone.
Ah,
alors
oui.
Que bon, il n'y a pas que lui dans la vie.
Non, l'homme merde, qu'on appelle personne, mince, c'est énorme.
Encore. Non, et personne.
On va terminer avec la semaine complètement sexe de Planète la semaine prochaine.
Ah.
Alors dans le désordre, hein, mais alors c'est toujours avec des prime time, des second time. Il y en a qu'on a déjà vu, par exemple les monologues du vagin. On a déjà vu ce doc sur la nana qui a écrit tout ça.
Et l'adaptation aussi en théâtre qui a été fait mult fois d'ailleurs.
C'est mercredi prochain à 20h45. Il y a l'histoire du sex appeal jeudi prochain à 20h45. Le clitoris, ce cher inconnu, mardi à 20h45. On a le pendant, elle est bonne. À la recherche du pénis parfait. Vendredi prochain à 22h30. L'amour la première fois, lundi à 20h45, toujours sur Planète. Il y a également Plaisir féminin à vendredi à 20h45. Le point G, c'est mardi à 22h35. Perdre sa virginité, mardi à 21h45. Et un peu plus, on va dire, un peu moins bandant, un petit peu plus technique, le sexe à vendre. Alors ça, c'est un documentaire sur comment on peut vendre du sexe, hein, à travers tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les massages, les objets, les produits, les thérapies de groupe, enfin tout. Mais tout se vend, hein, d'accord. Et il y a Sex Machine également, d'accord. Ça, c'est, alors le sexe à vendre, c'est lundi prochain à 21h45. Et Sex Machine lundi prochain à 22h35, donc ça se suit. Et il y a également Viagra l'or bleu jeudi prochain à 21h40. Tout ça sur Planète. Elle est pas belle la vie ?
Oui, oui, je n'en doute pas. Mais bon, on a quand même débordé d'une manière assez hallucinante puisque,
ouais. Combien,
mesdames
et
messieurs, 29 minutes 46 secondes, record battu ! Voilà, et en entier sur le site de la radio dès dimanche soir. Thomas, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un résumé pour ceux qui vont l'écouter ?
Si vous avez loupé le début de l'émission, on a eu une petite erreur de programmation musicale, une bande dessinée taxée de ma part, mais là je vais comptabiliser à partir de cette émission les BD qu'on t'a taxé. un cassage sur la bande dessinée Feu, de ta part d'ailleurs Xavier, assez violente, et puis bon, on en parlait à l'instant. Record battu, 29 minutes de débordement. Voilà, c'est tout pour cette fois. À noter là, dans le prochain numéro, pour la section cinéma, je vous parlerai de Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Ça promet encore de la bonne poilade.
Bah écoute, je n'en doute pas, la suite des programmes sur Radio FMR, donc du sport. Ah, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, puisque la prochaine émission directe, c'est à 17h, Vie d'ordure, du punk Back in 17. 18h30, Clark Nova, de la pop communiste pour les ouvriers issus d'un enseignement 3e cycle. 21h, Last Hétéro Experience, mais c'est une émission préenregistrée. 21h30, Liquid Sky, de l'électro. Et 23h, Breakbeat Experience, de la jungle, parce que ce soir, donc, rendez-vous sur la péniche Toulouse, à partir de minuit 1h, puisque avant, eh ben, on sera à la Croix Falgard pour donc,
les escales,
voilà. Eh ben, ma foi, c'est un peu chaud.
Au revoir à tous.
Ciao.